Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2009 et c'est l'épisode numéro 19. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Comme vous le savez, c'est l'émission où on parle de technologie, de gadgets, d'internet, de Mac de temps en temps pour faire plaisir à Mathieu, de cloud pour faire plaisir à Yann qui n'est pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de phishing, de piratage, de Google Wave et de plein d'autres choses dont le futur. Faudrait que je rajoute un écho là, mais je crois que je vais avoir la flemme. Donc imaginez un écho dans votre tête en fait. Et pour m'aider à décortiquer ces sujets, j'ai trois invités de marque. Mathieu, que vous connaissez tous, Mathieu Blanco de MacJT.
Salut à tous. Autre chose.
Tu vas bien Mathieu?
Oui, we love MacJT.
Oui, c'est vrai, il a changé de nom. Et tu as lancé tes autres podcasts dont on parlait depuis un moment d'ailleurs.
Pas tous. Non, il y en a un qui va arriver cette semaine, celui qui est le plus attendu visiblement.
Financimo, le fameux. Bah écoute, en parlera à la fin de l'émission.
À la fin.
Jérôme de Scuds et de Zabcast, tu vas être notre personne bourrée de l'émission.
Ce soir, je suis à jeun, je rassure tout le monde.
D'accord, bah bienvenue pour ta première apparition.
Et il fait beau à jeun émission.
Ah, pas mal.
Ouh là 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 là, je sens que c'est beau.
Ça démarre.
Et notre troisième invité, c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on est quatre au lieu des trois habituels, c'est Loïc, Loïc Lemeur, donc, qui revient pour sa deuxième prestation dans l'émission. Tu vas bien?
Ah, ça va très bien, j'ai raté un baba au rhum pour vous rejoindre.
Il nous disait avant l'émission que tu es à Paris en ce moment pour préparer le web, donc ta conférence sur le net, c'est l'une des plus grosses ou la plus grosse en France, dis-moi?
C'est la plus grosse en Europe et c'est dans le top 3 mondial, 2000 personnes, 35 pays.
Ouf.
C'est pas mal.
Ça fait... Mais du coup.
Mais ça a pris 6 ans quand même hein, pour y arriver. Ah.
C'est vrai que je me souviens d'un article, je crois, je sais plus si c'était un article ou un podcast ou je sais plus quoi, où tu racontais les débuts où vous étiez simplement, le but était de réunir les blogueurs en fait, les blogueurs parisiens et français.
Oui, mais en fait, tu sais, les gens se prennent la tête toujours pour la création d'entreprise. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr, dans les gens qui t'écoutent ici, qui nous écoutent, qui ont envie de créer leur entreprise. Et souvent, on cherche une idée incroyable, ainsi de suite. Et en fait, il suffit souvent de faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et il n'y avait pas de rendez-vous international. Mais tout petit, on a démarré, on était 50, mais c'était déjà en anglais, c'était déjà international. Et d'année en année, sans aucune publicité, sans aucun marketing, ça a doublé de taille jusqu'à arriver à 2000 personnes. Et voilà, et on est très content de ça. Mais ça a démarré en effet, c'était une petite réunion de blogueurs, sauf qu'elle était internationale.
Tu nous en diras un petit peu plus à la fin de l'émission et tu nous diras ce qui va se passer cette année, comme ça on donnera l'eau à la bouche aux auditeurs. Et donc, il était au restaurant et comme il avait promis d'être sur l'émission, il est parti avant son dessert. Et je raconte ça parce que généralement, il est aux États-Unis et il n'a donc pas droit à nos succulents desserts français. Et là, il a abandonné une occasion d'avoir son baba au rhum pour être sur le rendez-vous tech. Je sais pas si j'aurais choisi le rendez-vous tech, moi. Le baba au rhum, c'est quand même...
Ah, baba au rhum, ouais, ça fait hésiter quand même.
Non, mais j'y retournerai après.
D'accord, ok, alors tout va bien. Je me sens moins coupable tout à coup. Alors, bah écoutez, lançons-nous dans l'émission juste après avoir dit bonjour à la chatroom. Salut
bonjour.
À tous. Comme toujours, vous pouvez nous rejoindre sur le... Sur quoi ? Je suis en train
sur Ustream.
Voilà, merci Mathieu. Sur Ustream, pour regarder l'émission en direct, donc vous nous écoutez et vous me voyez, moi, en direct. Toutes les infos sont sur le website.
Et on est déjà 120. C'est pas mal, c'est de mieux en mieux.
Ça monte. Donc bonjour à tous, merci d'être là comme d'habitude. Et j'espère que vous allez bien vous amuser. Et on fera certainement appel à vous pendant l'émission. Premier sujet de cet épisode. Une histoire qui a envahi le web la semaine dernière, c'était que tous les plus grands sites de webmail ont été victimes d'un problème de phishing. Vous savez certainement ce qu'est le phishing, c'est-à-dire ces emails frauduleux qui vous invitent à aller sur un site un petit peu étrange et à rentrer vos informations de mail ou d'autre chose. Eh bien, ils ont été victimes de ce problème. Beaucoup de leurs utilisateurs sont allés sur ces sites et ont donné leurs informations. Et ils se sont retrouvés avec toutes leurs données, leur login et leur mot de passe, postés sur des sites pirates la semaine dernière. Donc, il y avait plusieurs dizaines de milliers de comptes qui ont été compromis, des comptes Gmail, Hotmail, etc., etc., Yahoo. Il y en a eu énormément. Et il y a eu un certain nombre d'informations assez intéressantes qui sont ressorties de cette histoire. Bon, la première, évidemment, c'est faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Je pense que ça, tout le monde est au courant, sauf les gens qui sont sur Mac, parce qu'eux, ils n'ont pas de virus, pas de problème, rien. C'est ça, Mathieu ?
Ouais, même nous, on peut cliquer, on peut donner notre mot de passe, et le mot de passe, il se détruit quand il est transmis. C'est génial. Non, mais il y a aussi un truc qui était pas mal, c'est qu'il y a une société qui a analysé ces fameux rapports, et puis on se rend compte que les gens choisissent des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour la grande majorité. Donc, à la rigueur, les gens qui veulent pirater des comptes, ils ont même pas besoin de faire du phishing et des trucs super complexes. Ils font des scripts qui tapent automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, t'essayes des comptes au hasard et puis tu vas facilement rentrer dans pas mal d'entre eux, visiblement.
Mais c'est vrai que cette info, moi, m'a complètement sidéré. Une immense partie, quand on dit une immense partie, je crois que c'était 20 ou 30% ouais. des
bah, tu vois, il y a déjà des réactions dans la chatroom. C'était mon ancien mot de passe.
Ah, c'est clair, hein.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password ou ce genre de truc, c'est suicidaire. Donc si vous avez un mot de passe de ce type là allez le changer, mais immédiatement. Vous êtes une victime en puissance d'un piratage de compte, quoi.
Il y avait même le meilleur, c'était un des premiers utilisateurs d'Hotmail qui est encore actif. Il avait réussi à avoir le mot de passe ouverture de parenthèse, ce qui est quand même assez fort.
Alors, remarque, c'est encore pas mal. Je sais pas si le script pense à ouais. Utiliser ouverte. C'est le truc, c'est tellement idiot du coup que tu penses même pas à le faire.
Bon, enfin, ça pose quand même un autre problème, c'est que c'est vrai que la multiplication des mots de passe sur le web, qu'on est obligé de se coltiner, parce qu'entre les différents sites, surtout au début, on pouvait pas mettre le même type de mot de passe, etc. Au bout d'un moment, ben voilà, t'en arrives à des mots de passe assez simples pour te souvenir de tout, quoi.
C'est vrai. Vous faites comment, vous, tiens, Jérôme et Loïc qui restaient silencieux enfin, Jérôme, tu fais comment pour avoir tes mots de passe? Tu mets toujours le même? Tu fais des variations? Donne-nous ton mot de passe.
Alors, mon mot de passe.
On va voir donne-nous ton mot de passe. On va voir s'il est sécurisé.
en fait, j'en ai plusieurs, des mots de passe, comme tout le monde. Et voilà, j'ai des moyens mnémotechniques, donc c'est pas les meilleurs mots de passe qui existent, mais j'essaye quand même de mélanger des chiffres, des lettres, et que c'est pas trop de sens, quoi. Mais bon, parce que je connais, mais quand je vois les mots de passe de ma mère ou d'autres personnes qui sont moins users, c'est que la protection est minimum, quoi.
Loïc, t'as une formule magique?
Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps le logiciel dont tout le monde parle dans notre chat en ce moment, c'est 1Password. Donc unpassword.com et c'est extraordinaire parce qu'en fait non seulement ça génère les mots de passe, mais ensuite à chaque fois que tu vas sur un site et que tu tapes un mot de passe, il l'enregistre et donc ça t'évite de les retenir. Et c'est là que je me suis aperçu que, donc petit à petit, tu te retrouves avec tous tes mots de passe de tous tes sites stockés au même endroit. Donc moi, je me suis aperçu que je stockais une cinquantaine de mots de passe. Et c'est très très bien, tu peux ensuite synchroniser avec ton iPhone, tu peux mettre tes cartes bleues là-dedans, tes cartes Visa. Et le seul truc qui manque finalement, alors ça remplit aussi, quand tu arrives sur un site, ça remplit pour toi le mot de passe si tu le souhaites. Le seul truc qui manque, c'est de pouvoir changer les mots de passe tous en même temps sur tous les sites. Ça, j'adorerais cette fonctionnalité-là. Mais sinon, c'est vachement bien. Mais j'y suis assez sensible dans la mesure, je ne sais pas si vous avez vu que Evan Williams, le créateur de Twitter, s'est fait complètement pirater, évidemment, il y a quelques temps.
Oui, on en avait parlé ici.
Donc, en fait, mon équipe m'a attrapé dans mon bureau en m'obligeant à changer tous mes mots de passe, même si... on n'est pas aussi hot que Twitter, mais c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui.
C'est vrai, ouais. Ben moi, j'utilise un autre logiciel que j'avais recommandé ici, d'ailleurs, qui s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-2-S, qui est un petit peu le même genre, qui est un trousseau de mots de passe qui te permet au moins de les stocker. Mais après, tu as ce qu'ils appellent un one point of failure, c'est-à-dire que si on trouve le mot de passe de ton logiciel qui stocke tes mots de passe, du coup, on a tous tes mots de passe facilement, quoi. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais ce qui est certain, c'est que...
La solution, ça va peut-être être le biométrique, mais il faudrait que tout ça se mette en place, quoi. Surtout pour le grand public, l'avenir, c'est quand même le biométrique pour ton identité sur le web.
Non, mais t'as jamais vu Mission Impossible et ce genre de truc, c'est super facile à contourner, il suffit d'avoir des...
Il faut déjà aller couper le doigt. Hein.
Après, tu vas trouver des sites un peu bizarres où tu pourras acheter des doigts refaits et tout, t'enverras une photo et puis tu pourras avoir... Ah, ça va être pas mal, ça.
Des doigts, des yeux, des trucs du genre. Ouais, effectivement. Bon... autre chose, on parle de piratage. Il se trouve que peu de temps après avoir parlé et passé la loi Hadopi, visiblement, l'Élysée a commis un odieux acte de piratage.
Est-ce qu'on va leur couper Internet ?
Et ça serait pas mal. Bon, alors, ce qui s'est passé, soyons clairs, j'ai lu quand même l'article original, et... ce qui s'est passé, c'est que c'était une émission qui avait été... faite pour l'Élysée. Enfin, l'Élysée a demandé s'il pouvait refaire des copies, retirer des copies, et l'éditeur a donné son feu vert, et ils en ont fait beaucoup plus qu'ils ne pensaient, et ils n'ont pas mis le copyright de la boîte de prod qui avait fait l'émission sur le DVD. Ils ont mis le copyright de l'Élysée, sachant que le copyright de l'Élysée était là pour les parties de l'émission, les logos et les choses comme ça, de l'Élysée. Donc le copyright n'était pas sur le documentaire en lui-même. Donc, excusez-moi, je précise, c'est l'émission à visage découvert qui est une collection de documentaires, qui est diffusée sur France 5. Donc,
Moi, j'avais pas lu la même chose, mais...
L'Élysée avait demandé, ils en ont tiré plus. Et,
Parce que l'Élysée a dit qu'ils avaient demandé, mais la société Galaxy Press, qui est producteur de cette émission, on dit non, on n'était pas au courant.
Peut-être qu'ils ont revu leur version... en se disant
peut-être qu'après ça fera un peu chier. Mais c'est vrai qu'au début ils disaient non, on n'a jamais eu vent de cette histoire de reproduction, et même que l'un des directeurs de Galaxy Press aurait dit lors de cette interview, s'ils nous auraient demandé 40 ou 400 copies, on leur aurait filé gratos, bien évidemment, vu que c'est l'Élysée qui demande.
À vrai dire, le problème que ça soulève, qui va au-delà de qui a donné le droit à qui et à quoi de recopier quoi, c'est que l'Élysée s'est retrouvée confrontée au problème dont tout le monde parle quand on parle de copies privées et d'usage raisonnable. C'est que de temps en temps, on a besoin de faire une copie pour son usage personnel, qu'on l'a toujours fait et que ça a toujours été autorisé, et que les lois draconiennes qu'ils veulent imposer ne sont pas compatibles avec cet usage
comme quand ils ont été condamnés à l'utilisation de la musique lors des meetings de l'UMP ou les trucs comme ça.
Par exemple, oui. C'est un exemple flagrant de ce type d'utilisation. C'est bon, ça va pas. C'est une petite ironie de l'histoire qui va pas changer ni la loi Hadopi ni rien, mais. C'est tout de même amusant à constater.
L'arroseur arrosé.
C'est vrai que le fameux lobbying d'Internet très puissant, comme on a entendu, est à l'affût de ce genre d'histoire. Donc la direction de la com à l'Élysée devrait faire vraiment gaffe, parce que tout le monde va s'emparer de ce genre de petites anecdotes pour en faire des montagnes, quoi.
C'est sûr que ça ne fait pas propre, mais je me demande d'un autre côté si ça ne fait pas une montagne dans notre petit microcosme internetien. Et que dans le reste des médias et du public, c'est un peu...
Ça reste dans l'Internet, mais ça se stocke, c'est-à-dire ça s'empile. Et puis si un jour il y a vraiment quelque chose de gros, t'en fais pas qu'ils vont le ressortir et qu'ils vont tous les aligner.
C'est possible, oui, c'est possible. T'en penses quoi, toi, Loïc, de cette histoire ? Tu es effondré de voir Hadopi, ou tu excuses l'Élysée ? Qu'est-ce que t'en penses ?
J'ose pas te dire que je déjeune à l'Elysée demain, donc je passe.
Ils auront peut-être du baba au rhum.
Ils auront peut-être des baba au rhum.
Ah, la cantine est très très bien. Je te confirme qu'elle est, très très
correcte. Il paraît, ouais.
Et je ne manquerai pas d'évoquer le point, mais donc moi personnellement je passerai sur le commentaire.
D'accord. Mais bah, ceci dit, c'est intéressant tout de même. Je ne sais pas si tu peux t'exprimer à ce sujet, mais est-ce que tu vas discuter des problèmes que peuvent poser la loi Hadopi par exemple, ou est-ce que tu y vas pour d'autres choses?
Ah non non, Hadopi, je me suis exprimé depuis très très longtemps sur le sujet, et je me suis exprimé auprès de qui je le pensais nécessaire par mail.
D'accord.
Sur le fait que j'étais totalement contre et que je pensais que c'était totalement débile. Mais malheureusement, comme j'écris beaucoup plus en anglais, je suis quand même beaucoup plus branché en effet sur ce qui se passe dans la Silicon Valley. Je suis un peu moins militant, mais je sais être militant contre quand je pense que c'est vraiment pas. Je crois que c'est une énorme connerie. Et à mon avis, ils se rendent compte, ils sont parfaitement conscients de ça. Et il y a un ministre qui est sauté, et puis la suite suivra. Mais ça n'engage que moi ce que je dis, hein, mais j'espère.
Bien sûr, oui.
France. Voilà, mais non, je ne vais pas pour discuter de ça, pas du tout. Non.
D'accord, ok. Bon, donc oui, c'est sûr qu'a priori, c'est la loi est sur les rails, mais elle est un petit peu vidée de son essence déjà aujourd'hui, donc. Enfin, on verra, on suivra on suivra l'évolution de ça. Un truc sur lequel tu vas pouvoir t'exprimer, j'espère, largement, Loïc, c'est l'arrivée de Wave et l'excitation que ça a provoqué. Est-ce que, alors, je te pose la question, mais est-ce que tu as eu ton invitation Google Wave ?
J'en ai eu plein d'invitations Google Wave.
Ah, le salaud !
Je vais vous en voulez.
J'ai du papa au roi, mais échangeux.
on va commencer à marchander le baba au rhum contre les invités.
Ah, dans le chat là, je sais pas, on en a combien par contre?
Je crois qu'à l'origine il y en avait 8 par contre original. Moi j'ai eu une deuxième génération grâce à notre ami Jeff, et la deuxième génération n'a pas encore d'invite, donc on en discutera offline un petit peu.
Oui, on discute offline.
Offline, sans la chatroom, entre nous, toi et moi, Loïc, il n'y a pas de souci, on va discuter.
J'ai une dizaine d'invites, j'en ai activé une et j'ai invité personne dedans, donc il est vierge, donc tu me dis qui tu veux inviter. Et je le ferai avec plaisir.
Eh bien, vous ferez vos petits deals, moi j'ai déjà la mienne, donc je suis content.
Maintenant, sur ce que j'en pense, c'est que tu es en train de contribuer au buzz. Ça marche très très bien. La preuve, dans ton chatroom, ils sont en train tous de s'exciter. Et je vais te dire, moi, ce que j'en pense. J'ai eu la chance la semaine dernière de discuter avec un des managers de Google qui m'a dit tout simplement que c'était pour eux un proof of concept, c'est-à-dire un test, une appli qui était là pour voir un peu ce que ça donnait, et qu'ils eux-mêmes hallucinent complètement du buzz qu'il y a autour de ce truc-là. Les gens y voient une attaque à Twitter, d'autres y voient un nouveau réseau social, d'autres le remplacement de Gmail, et en fait, en gros, eux, ils disent, nous, c'est des mecs dans un lab qui ont fait un truc. Et ce qui, moi, je le regarde pas de manière très, je le mets pas très haut dans mon agenda pour l'instant. Je pense que justement, c'est très marrant comme les blogueurs peuvent porter comme ça quelque chose au pinacle. Souvenez-vous d'Open Social l'an dernier. Moi, il y a 2 ans, tout le monde nous gonflait avec Google Open Social. Il fallait absolument changer sa techno. Il fallait que les applis soient compatibles. Et tout ça est retombé. Et moi, je pense qu'en fait, c'est juste un truc qu'ils ont fait pour tester, voir ce que ça donnait. Je ne sais pas si maintenant vous n'avez pas essayé, malheureusement. Moi, j'ai essayé. J'ai rien compris. J'ai pas vu l'intérêt. Et la plupart des gens qui l'ont essayé disent la même chose. C'est-à-dire que c'est pas clair et que c'est très très compliqué. Donc, à mon avis, ça va être un truc de labo qui va rester un truc de labo. Mais je vous en passerai des invites avec plaisir.
Bah, écoute, le buzz est effectivement bien réalisé. Ça,
J'ai eu mon invite effectivement. J'ai pu tester aussi. Je vais commencer la controverse avec Loïc parce que je suis pas tout à fait d'accord. Mais avant ça, je tiens quand même à préciser que tu parlais d'Open Social, c'est vrai que ça a fait un petit peu de bruit, mais à mon sens, le bruit qu'a généré le buzz qu'a généré Wave est un petit peu sans équivalent dans ce type de produit, parce que c'est véritablement un service, c'est un service web, et le seul la seule chose que j'ai vu créer un buzz aussi énorme, c'est les produits Apple. Quand il y a un nouveau produit Apple qui sort, toute la sphère Internet est surexcitée. Là, les 2 jours qui ont suivi le lancement des invitations, c'était Twitter ne parlait que de ça. C'était invraisemblable. Tout le monde suppliait, vendait père, mère, chaton, enfant et rein. pour obtenir une invite Google Drive. Et moi le premier, hein, j'étais.
Mais ça, c'est l'effet du buzz, c'est pas l'échelle de l'application.
Je pense là, c'est le publicitaire qui parle.
Oui, comme pour un produit Apple, c'est le buzz. Le produit en lui-même n'a rien d'intéressant.
Ils ont balancé pour Wave, à mon avis, une phrase clé, c'est « Wave va remplacer l'email ». Que ça soit vrai ou faux, c'est pas grave, mais c'est ça qui a créé ce buzz. C'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de l'email. C'est vrai que dès que vous avez essayé de faire un peu de travail de groupe avec l'email, on s'y perd, c'est une vieille technologie. Et Wave remplaçant de l'email, enfin moi je sais que c'est ce qui m'a fait tilter et m'intéresser à Wave, quoi. Je pense que c'est la raison du buzz.
Ouais, et puis il suffit que ce soit Google qui l'annonce, qui distribue un petit nombre d'invitations, que ce soit des personnes bien sélectionnées, et puis t'as un buzz mondial comme celui-ci, hein.
Ouais, c'est vrai que le marketing viral autour de Wave, ne serait-ce que par la rétention des invitations, a été super bien monté. La chatroom d'ailleurs.
Mais finalement, Patrick, ça sert vraiment ce truc ou pas ?
Alors, bon.
Ça commence mal.
Non, alors, moi je trouve que le principe est vraiment bon. Vous vous souvenez, la première fois que vous avez utilisé Gmail, l'une des choses qui était la plus agréable, la plus intéressante, c'était le threading, la réunion, l'empilement des discussions, de manière à ce qu'à chaque fois que vous ayez un nouvel email, la chose n'arrive pas comme un élément indépendant. Tout était réuni, sur Gmail, tous les emails sont réunis, et vous suivez la discussion de manière totalement linéaire.
Ce qui est génial.
Ce qui change la vie par email.
Ah ouais, ouais.
Et Wave part un petit peu de ce principe de base et en fait et l'implémente de manière moderne. Donc déjà, rien que là, ça m'a pris 24 heures à comprendre, mais rien que là, il y a une possibilité de je ne vais pas dire de remplacer l'email, mais de faire ce que fait l'email aujourd'hui mieux avec cette base. Après ça, Wave améliore la base et donne énormément de possibilités supplémentaires. Donc, est-ce que Wave pourrait, en théorie, remplacer l'email ? À mon sens, oui, ça pourrait. Maintenant, il est évident que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, si ça se fait un jour. Et il y a un autre problème qui est sans doute, qui a été évoqué par Loïc, là, qui est le fait que c'est pas simple du tout, en fait, Wave. Même moi, qui suis quand même assez féru de technologie, il m'a fallu 10-15 minutes à regarder un petit peu partout pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait quoi, comment ça fonctionnait. Et encore aujourd'hui, ça fait 2-3 jours.
Arrête, ne me fais pas croire que tu as compris, Patrick. Personne n'y comprend rien. Et personne, mais quand je dis personne, mais Scobble, ça fait 15 jours qu'il blogue en expliquant qu'il comprend rien, que c'est un truc complètement débile, qui rajoute du bruit sur du bruit qu'on a déjà. Donc, arrêtez de faire semblant de comprendre.
Non, mais attends,
je ne trouve même pas comment on invite des gens. Je me ferai un plaisir de distribuer mes 8 invités dans le chat room tout de suite.
Non. D'abord, ils sont sur Skype.
Arrêtez les gens, Patrick.
Non, mais attends, pardon.
Il est où le bouton pour inviter les gens ?
Ah, j'en sais rien, moi j'en ai pas, donc...
Tu vois ?
Ouais, je sais pas. Il fait monter les enchères, en fait. J'ai vu qu'il y avait des gens qui lui proposaient des Baba au Rhum et des financiers et des forêts noires. Il est en train de faire monter les enchères, en fait, dans le chatroom. Ce que j'explique en fait ce que je disais, je ne comprenais même pas la manière dont ça fonctionnait, c'est-à-dire comment on crée un nouveau message, comment on ajoutait des gens à ce nouveau message, etc. C'est ça qui m'a fallu 15 minutes pour vaguement comprendre l'aspect fonctionnel même de Wave.
Ensuite, l'ergonomie est pourrie ou nous
non,
on
c'est
l'a
pas que c'est,
plus, donc.
c'est une nouvelle, un nouveau type de, d'interface graphique. C'est un, pas d'interface graphique, j'exagère, mais une nouvelle manière de penser la communication. Donc il faut que tu t'adaptes un petit peu de la même manière, en quelque sorte, mais plus poussée, qu'il a fallu s'adapter à Gmail quand il est sorti. C'était pas exactement le même type de métaphore et de
d'interface. Bon, en même temps, moi j'ai mis 4 mois à comprendre comment ça marche Twitter, 6 mois comment ça marche Facebook. Donc je me dis, passer une semaine ou deux à essayer de comprendre comment fonctionne Google Web, si ça révolutionne.
Ah non, si t'as mis 1 mois alors... sur Twitter et 6 mois sur Facebook, là t'es parti pour 5 ans. Hein.
Mais alors justement, le truc c'est que, comme le dit Loïc et comme le disait Scoble, c'est que le truc c'est que on peut comprendre vaguement comment ça marche, mais on sait pas à quoi ça sert. C'est ça le gros problème. On n'est pas certain de ce qu'il faut en faire, de comment on l'utilise. Alors moi, j'ai commencé plusieurs waves avec des amis où on s'est dit, on va essayer de faire tel truc, et puis on va voir ce que ça donne. Et le potentiel est énorme, et pour nuancer mon propos, je dirais que le potentiel est aussi énorme que la possibilité qu'on n'en parle plus dans 1 ou 2 ans. Il est tout à fait possible que ça soit un gadget un petit peu marrant aujourd'hui, que ça prenne pas et que dans 2 ans, on l'ait complètement oublié. Je suis parfaitement conscient de ce fait. Mais le truc qui est important, c'est que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, sur ce point, moi, je suis pas vraiment déçu par Wave. Au contraire, je suis très enthousiasmé parce que ça offre des possibilités intéressantes.
Maintenant, à voir maintenant si elles vont être saisies ou pas, quoi.
Voilà. Mais Loïc, donc, toi, t'es plus sceptique. Tu y vois pas d'utilité, en fait.
Je suis pas sceptique, je regarde même pas. Je pense que c'est 100% du buzz de blogueurs auquel vous contribuez, là, en ce moment.
Ah, mais complètement, hein. Mais moi, si tu veux, je suis... Pardon, vas-y.
Non, voilà, je te dis, moi j'ai joué avec et je pense que c'est une connerie de gens qui se sont torturés je félicite les gens qui se sont torturés dans un bureau pour essayer de trouver une autre interface de communication, mais qu'elle est tellement compliquée qu'elle a assez peu d'intérêt. On va voir si je me trompe, mais je prédis une mort très très rapide à ce D'accord. phénomène de RP. De Google, et en fait les gens y portent de l'attention parce que c'est Google, mais il faut quand même voir que la taille de Google est énorme, et donc c'est des gens qui sont dans un coin qui ont fait ça, et je pense que ça va, on va voir.
Je crois que Yann allait d'accord avec toi.
J'irai juste un petit truc à ce propos. Quand Twitter est apparu, les réactions étaient quand même extrêmement sceptiques. Et la plupart des gens, moi y compris, et moi le premier, j'ai fait mon compte Twitter, je l'ai créé, j'ai envoyé un message et demi en disant « Salut, je teste Twitter !» Et je l'ai abandonné pendant peut-être 3 mois.
Bah voilà, c'est exactement. Toi aussi, t'as mis 3 mois à comprendre comment fonctionne Twitter.
Voilà, exact. Ah, mais tout le monde. Et on savait pas à quoi ça servait. Et on a compris qu'avec l'utilisation et avec le temps. Mais... Bon, pour là encore,
là c'est vrai que ça fait 10 minutes qu'on parle de Google Wave, je sais toujours pas à quoi ça sert et je pense que
non, personne.
Ça a l'air assez obscur. Mais bon, moi juste pour dire que ça soit Wave ou pas, moi ce que j'attends avec impatience, c'est quelque chose pour remplacer l'email. J'en ai vraiment marre de l'email. Dès qu'on essaie de faire du travail collaboratif avec l'email, c'est juste l'enfer. Alors si Wave ne le fait pas, j'espère que quelqu'un d'autre trouvera la bonne formule.
Ben, je pense que pour le travail, c'est pas forcément l'email pour tout le monde, mais pour l'email d'entreprise par exemple, Wave pourrait être une alternative très intéressante, justement parce qu'on travaille tous sur le même document qui est centralisé et qui est mis à jour. Petite note là encore pour que tous les gens qui nous écoutent prennent tout ce que je dis avec un petit peu de recul. Moi je suis le mec qui tombe dans le panneau à chaque fois, dans le panneau du buzz à chaque fois, quand le l'iPhone est un succès, mais quand ils l'ont annoncé, pour moi c'était une révolution.
Mais ça l'est, Patrick, c'est une révolution.
Non, mais ça c'est Mathieu qui parle. Quand OnLive a été annoncé, moi j'y vois le messie du jeu vidéo. Maintenant ils commencent avec Wave, je trouve ça fascinant. Donc bon, j'ai quand même
l'ambiance. Ils annoncent Internet facile. Explorer 9 et c'est bah non, s'en fout.
Les attachés de presse t'adorent, Patrick, en fait.
Non, Internet, je ne vais quand même pas jusque là, je veux dire. Ah, Internet Explorer, il y a ça des va. Limites à ma crédulité. Bon, passons à un autre sujet extrêmement intéressant aussi, celui de la VOIP chez AT&T. Attention. Si vous ne comprenez pas ce qu'on veut dire, la VOIP, c'est la voix sur IP, donc la voix par Internet, tous les logiciels de type Skype qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, étaient interdits d'utilisation sur les réseaux des opérateurs mobiles. et notamment AT&T aux États-Unis. Et ils ont annoncé il y a peu qu'ils allaient autoriser l'utilisation de ces logiciels, enfin de ces protocoles, de ces services sur leur réseau de téléphone mobile. C'est, à mon sens, une décision extrêmement importante pour l'application directe, mais c'est aussi un changement de philosophie presque. Je m'explique. L'application directe, on va pouvoir utiliser Skype depuis l'iPhone, par exemple, et tous les autres types d'appareils, directement sur le réseau 3G, sur le réseau téléphone. On n'aura pas besoin d'utiliser le Wi-Fi. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante pour les gens qui ont déjà eu ce genre de problème. Les autres, ça leur dira pas grand-chose, mais les gens qui peuvent l'utiliser comprendront que c'est quelque chose d'important. L'autre signification, et je vous demanderai vos commentaires sur les deux dans un instant, c'est que AT&T et d'une manière générale les opérateurs de téléphonie mobile sont peut-être en train de se rendre compte que l'avenir de leur business n'est pas le fait de véhiculer la voix, mais de véhiculer les données. Et ils sont en train de se dire, on va arrêter de s'accrocher mordicus à nos forfaits de 2 heures, 3 heures, 4 heures. La véritable mission, le véritable business à l'avenir, ça va être la véhiculation des données d'Internet et autres, et peu importe ce qu'on va passer dessus. Est-ce que je suis en train de me faire des illusions, ou est-ce que vous pensez que c'est effectivement un signe de cette transition ?
Tu crois vraiment que des gens qui font payer 15 centimes d'euros les 160 caractères se disent ça?
Tu parles des SMS?
Oui. Non, mais je dis. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette vision. Et surtout, je le pense encore moins quand j'entends Orange dire nous aussi, on va proposer la VoIP sur notre réseau à 10 euros par mois en plus de votre forfait, en plus de tout ce qu'ils rajoutent sur le forfait. Je sais pas.
Mais c'est quand même une
j'aimerais bien.
C'est quand même un changement de direction, parce qu'aujourd'hui, si on veut utiliser de la VoIP, il faut payer à la quantité de données, souvent un prix exorbitant du méga, là 10 euros pour avoir Skype illimité, par exemple, qui fonctionne plutôt pas mal. Moi, je serais peut-être intéressé par...
C'est pas illimité, hein, tu restes toujours limité à ton quota de 1 giga de trafic par mois, hein. D'accord. Sous réserve d'être limité de la vitesse, c'est-à-dire qu'eux, ils s'en foutent. Hein, si tu utilises tes 1 giga par mois, ils savent que soit ils vont te limiter, ou soit ils vont carrément vraiment te limiter très fortement la vitesse, et donc ta VoIP sera inutilisable.
Tu as le don de casser mon enthousiasme, Mathieu, c'est terrifiant.
Non, mais c'est vrai que le mec qui réfléchit comme ça, il dit « Oui, on va les autoriser, on s'en fiche, on les limite à 1 giga, 500 mégas, c'est de l'Internet illimité. » Et puis, de toute façon, là, comme l'a dit Bouygues Télécom, c'est qu'eux, ils savent même pas s'ils vont encore le proposer, quand et comment, parce que d'après leurs tests sur leur réseau, la qualité n'est pas assez bonne pour faire de la vraie VoIP. Donc en fait, ils peuvent l'activer, le proposer, dire oui, regardez, on change de vision, on vous fait payer 10 euros par mois en plus pour ça. Alors qu'au final, eux, ça va pas changer grand chose. J'ai un peu plus, malheureusement, mais j'aimerais bien qu'ils changent et qu'ils se disent, nous, on déplace des données, après que ce soit de la voix, des données, du mail. Ce serait bien qu'ils deviennent des vrais, comme les fournisseurs d'accès à Internet, quoi.
Loïc, la perspective de téléphoner sur Skype sur ton iPhone sur Orange tout en restant au restaurant pour manger ton baba au rhum, ça ne t'inspire pas ?
Pas vraiment, non. De toute façon, la voix va devenir complètement gratuite. Donc non, ça ne m'inspire pas des masses. Ce que j'attends vraiment, c'est Google Voice. J'ai Google Voice aux États-Unis sur mon portable, mais tu ne peux pas encore porter le numéro dessus. Et ça, j'attends vraiment ça, parce que tu récupères un numéro Google Voice, tu le mets comme numéro principal de portable, et ensuite tu peux changer d'opérateur autant que tu veux. Finalement, ton numéro principal, c'est le Google Voice. Donc ça, c'est, moi, j'attends vraiment ça.
Plus que la voix sur IP, ça ne te...
Ben non, ce que je voudrais, c'est que la voix IP soit juste ce que je fais tout le temps. Et si tu as testé, si tu n'as pas testé, je te recommande de tester quand tu peux l'expérience justement Google Voice sur un téléphone Android. Parce que non seulement quand les gens t'appellent, et donc je prends un exemple, tu es sur Orange, tu as un téléphone, tu as un des nouveaux modèles Android. Déjà, première chose qui se passe, c'est quand les gens t'appellent sur ton Google Voice, ton numéro sonne. Vous allez me dire, ça c'est logique. Mais c'est quand tu appelles, ce qui est très innovant, c'est quand tu téléphones, tous les appels sortants ne passent plus par l'opérateur, mais passent par les datas. Ouais. Et ça, c'est dingue. Parce que, ça ensuite, tu peux changer d'opérateur tant que tu veux. Tu peux passer d'Orange à SFR et tes amis vont continuer à utiliser le même numéro en permanence. C'est ton numéro principal. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer.
Oui, c'est sûr. Mais est-ce que AT&T ne bloque pas en ce moment, AT&T ou d'autres, ne bloque pas en ce moment la VOIP, puisque tu dis que ça passe par la data, donc c'est un passage par la VOIP avant de repasser par le réseau traditionnel. Est-ce que c'est autorisé?
Non, ça ne l'est pas encore aujourd'hui.
Ah, c'est ça, oui,
d'accord. Quelques réseaux aux États-Unis où tu peux déjà faire ça avec un dual phone sur T-Mobile, je crois.
Donc l'autorisation de la VOIP sur les réseaux est quand même importante, même pour Google Voice, par exemple.
Oui, je suis d'accord. Il faut que Xavier Noël de Free remporte sa quatrième licence et il va aller foutre le bordel dans tout ça.
Oui, okay. ça serait effectivement. Et on nous dire quelque chose, Mathieu.
On nous annonce dans la chatroom Google Voice Wave.
ça, ils le gardent dans leur besace pour.
Oui, c'est tout ça. Vous aurez à peu près 48 fenêtres qui vont s'ouvrir sur votre téléphone portable en même temps.
Bon, et vous savez ce que vous pourrez faire aussi en 2012, c'est revendre vos licences d'utilisation de logiciels, de tous vos logiciels. Peut-être.
Fait déjà.
Et peut-être pas. Ben non, en fait, le problème vient d'un cas qui a été jugé dans les tribunaux américains, dans le district ouest de Washington, qui opposait un individu et Autodesk. C'est-à-dire que cet individu avait acheté une licence d'utilisation du logiciel AutoCAD, qui est bien connu, et il voulait la revendre. Autodesk disait: vous n'avez pas le droit de faire ça parce que nous vous avons loué la licence Autodesk. Ce que vous avez payé, c'était le droit de l'utiliser, mais vous n'avez pas acquis le logiciel parce que ça n'était qu'une licence et pas l'achat du logiciel en lui-même.
Oui, c'est de la location c'est de la location de logiciel.
Oui, sauf que le type, il n'avait pas... il avait payé son logiciel une fois, c'était pas un service de location de logiciel dans lequel il payait un prix réduit tous les mois. C'était il avait simplement acheté la licence d'utilisation une fois pour toutes.
Ouais.
Et il s'est dit à un moment, je ne veux plus l'utiliser, je vais revendre ma licence. Autodesk a dit non, interdit, pas le droit. Ils sont allés jusqu'aux tribunaux et les tribunaux ont jugé en faveur de l'individu en question et il a eu le droit de revendre sa licence. Alors, c'est peut-être un cas qui vous paraît loin pour Autodesk en particulier, mais le truc, c'est que ça ouvre une porte un petit peu effrayante pour les éditeurs de logiciels, qui est que si on a le droit de faire ça pour AutoCAD ou d'autres logiciels professionnels, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire pour tout type de logiciel? Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les jeux qu'on va acheter de manière dématérialisée, qui vont être... C'est la grande inquiétude de notre ami Yann. On ne sait pas vraiment où ils sont. Si on les perd, si notre disque dur crache ou si on change d'ordinateur, on n'a plus la licence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'a pas véritablement le droit de propriété de cet achat, on ne peut pas le retélécharger, etc. Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que votre licence vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez, et notamment la revendre, ce qui mettrait des bâtons dans les roues des éditeurs qui se disent, avec le téléchargement, avec la vente dématérialisée, on ne peut plus revendre un jeu, par exemple, et ça assèche ce marché de l'occasion qui aujourd'hui est énorme. Donc c'est une décision assez importante. Maintenant, à savoir si elle va se généraliser, c'est dans un district des États-Unis, donc ça, on n'y est pas encore pour le...
Mais c'est vrai qu'il devrait un petit peu, comme dit, arrêter d'avoir le cul pincé. Si maintenant il faisait un genre de Steam ou un genre de OnLive où tu pourrais par exemple prêter ton jeu à un, deux ou trois amis qui pourraient le tester, pas de manière simultanée. Si tu pouvais revendre de manière virtuelle tes licences ou des choses comme ça à des amis qui sont dans ta liste, avec qui tu joues. Tu vois, s'ils mettaient un petit peu de social autour de ce genre de choses qui sont des choses que... Voilà, c'est du troc, on fait ça depuis la nuit des temps. Donc c'est vrai qu'il faut... Ce serait bien qu'ils rajoutent des petites options comme ça, ça donnerait encore plus envie.
Oui, ça serait bien, mais... Ça serait bien, mais si tu leur demandes gentiment, ils vont pas le faire.
Oui, bien sûr, tu es obligé d'aller devant des tribunaux et tout. Bon, là, en plus, c'est AutoCAD, donc c'est vraiment le gros logiciel professionnel. Et puis les licences, extrêmement.
C'est super cher, AutoCAD.
C'est super cher et c'est bon, c'est des logiciels professionnels, mais c'est des licences très spécifiques à chaque fois. Je crois qu'il y a encore même certains logiciels chez AutoCAD où il faut insérer des clés USB sur certains ports pour que le logiciel se lance. C'est des trucs.
Yann, dans la chatroom, se fait plaindre. Il nous dit qu'il a perdu son mot de passe pour sa PlayStation et il a donc perdu tous ses jeux achetés sur le PlayStation Network.
Mais tu vois, il aurait. 4.
Pardon ?
Il essaye 1, 2, 3, 4, c'est peut-être son code.
Non, moi je crois surtout qu'il l'a fait exprès pour prouver son argument sur les méfaits de la dématérialisation.
Eh bien, sur une fonction récupérer son mot de passe.
C'est vrai. Le Kindle que toi tu dois bien connaître, Loïc. Est-ce que tu t'es acheté un Kindle ? Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois.
On n'en a pas parlé, mais je peux te faire un témoignage là-dessus. J'ai acheté un petit Kindle, le petit, et je me le suis fait piquer immédiatement par mon épouse, qui m'a en fait finalement arrangé parce que juste au moment où on me l'a piqué, le DX est sorti. Donc je me suis commandé un DX en lui offrant l'ancien. Et je n'ai.
C'était un moyen de retourner la situation en fait. Elle te l'a piqué et tu, pour te faire briller un petit peu, tu lui as dit oh bon, je te l'offre.
Mais tu vois ça te donne une idée de la qualité du produit. C'est que derrière, c'est pas tout. C'est que maintenant j'ai trois petits garçons, enfin pas si petits que ça, mais et qui commencent à nous piquer nos Kindle maintenant. Donc en fait, c'est un outil extraordinaire sur lequel moi j'étais très dubitatif au début parce qu'il y a quand même plein de points qui paraissent un peu ringards. Par exemple, c'est pas un touchscreen, c'est tu appuies sur page suivante, page précédente, donc ça c'est un peu décevant. Par exemple, c'est du noir et blanc et pas de la couleur. Il n'y a pas de rétroéclairage, donc il y a plein de trucs au début où quand tu l'as en main, tu te dis bon. Et en fait, à la longue, après quelques heures d'utilisation, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai jamais autant lu de ma vie, sincèrement, parce que tu passes d'un bouquin à l'autre. Donc, tu te balades avec une petite librairie. Moi, qui passe beaucoup de temps dans les avions, je me balade toujours avec, bon, je dois avoir une trentaine de livres dedans, mais évidemment, on lit pas 30 livres en même temps, mais avec deux ou trois que je lis en même temps. Et ça, c'est une utilisation totalement nouvelle. Pourquoi ? Parce que tu passes d'un roman quand t'as envie de te détendre à un business book quand t'as envie plutôt d'apprendre quelque chose. En fonction de ton humeur. Et quand le bouquin te fait suer quand tu es en voyage, au lieu de te balader avec un pavé que tu arrêtes au bout de 30 pages, allez, ne me dites pas que ça ne vous est pas arrivé, je le sais, et bien là, tu passes à l'autre, quoi. Et ensuite, ce qui est top, c'est la presse. Donc, tu peux non seulement acheter un bouquin, il arrive en quelques minutes via le réseau, donc GSM, soit la presse arrive pendant que tu dors, il télécharge Le Monde, Newsweek, c'est vraiment dingue. C'est extraordinaire. Et en effet, ils viennent de lancer le... version internationale, il va falloir encore que je change de Kindle.
Oui, moi, j'ai une petite question. Pardon, vas-y.
C'est comment ça fonctionne, vu que justement, ils nous disent que ça utilise le réseau 3G et qu'on a juste besoin d'acheter le Kindle, qu'on n'a pas besoin de s'abonner à un opérateur.
Parce que, alors, donc déjà, pour notre fierté nationale, le chef de produit de Kindle est un Français, il s'appelle Laurent Cellier. Et je cours avec lui dans le Golden Gate Park très régulièrement, c'est devenu un bon copain, et donc j'ai eu l'occasion de lui poser ces questions-là. Et en fait, ils ont négocié un deal avec AT&T aux États-Unis qui couvre le monde entier maintenant, mais ça passe en fait uniquement par le réseau téléphonique, enfin les datas du téléphone, parce qu'en fait un bouquin c'est évidemment très léger. Et ce que je pense que c'est par souci de simplicité qu'ils l'ont fait sur le réseau de téléphone en fait, enfin mobile, plutôt que de le faire par Wi-Fi. C'est un défaut d'ailleurs, c'est qu'il a pas de Wi-Fi. Donc si t'as pas de couverture mobile, on peut pas télécharger dessus. Mais je crois qu'ils ont voulu, pour en avoir discuté avec lui, avoir lu quelques interviews de Bezos, il est extrême sur la simplicité. Et c'est vrai que c'est un produit qui est très très simple, qui fait son boulot. Son boulot, c'est de, tu cliques, tu veux acheter un bouquin. Le dernier Dan Brown a été le type qui a écrit le... Ah, j'ai un trou, tiens.
Oui, c'est le code...
Da Vinci Code.
Da Vinci Code.
Et donc son dernier bouquin, il y a trois semaines, a été plus vendu sur le Kindle qu'en ligne. Que sur
37 fois plus, je crois.
Absolument.
Sur le Kindle que... Ouais.
Et Patrick, tu avais peut-être raison alors. Hein, les opérateurs sont vraiment en train de se dire on peut être un nouvel acteur en permettant le transfert de données, quelles qu'elles soient.
Certainement, oui. En l'occurrence, j'imagine qu'ils payent une redevance à leurs différents opérateurs. AT&T à l'international, je crois que sur les États-Unis, c'est Verizon ou Sprint.
Oui, mais ils repayent après aux opérateurs. En fait, eux, ils font tellement de pognon avec ça que ça pose pas de problème. Moi, je dois leur laisser sincèrement $60 par mois maintenant.
Oui, ce qui est effectivement, pour la, du fait de la simplicité d'utilisation, on se met à consommer plus, c'est sûr.
Exactement, soit en bouquin que tu achètes, soit en presse, parce que c'est très facile, tu appuies sur un bouton et paf, tu l'as, quoi.
Ouais, c'est comme sur l'iPhone et les applications, quand c'est sorti.
C'est l'iPhone du bouquin, et ce que les gens ne voient pas, ça va être les conséquences du Kindle. C'est-à-dire que mine de rien, vous avez dans la poche l'auteur du livre, vous avez l'éditeur, vous avez le libraire, vous avez les comment vous appelez ça, les NMPP, c'est pas le XMPP.
De quoi tu parles?
Les gens qui distribuent les journaux, qui sont tout le temps en grève.
Ah oui.
Vous voyez qui je veux dire?
Ouais. Oui, tout à fait.
Bon, mais ceux-là, ils sont dans le Kindle c'est aussi, là, puisque le Kindle, ils sont.
Oula.
Oula.
On a eu un petit truc bizarre de Skype.
Et vous voyez ce que je veux dire, la distribution, donc ça va de l'auteur jusqu'à la distribution du bouquin et du.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du magazine qui sont intégrés là, et donc il y a toute une chaîne qui va exploser, exactement comme sur l'iPhone, et en fait les gens trouvent que c'est un truc sympa. Tu vas voir, dans pas longtemps, il y en a qui...
Ah bah ça va,
c'est
oui,
beaucoup
c'est
moins sympa, parce que la Fnac, c'est dedans aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un, comme l'App Store, un magasin de livres à l'intérieur, donc ils concurrencent directement. Donc ça va être... c'est l'iPhone pour le bouquin qui va désintermédiariser tout ce bordel, et ça va être, je pense, au bénéfice du consommateur, c'est-à-dire nous, puisqu'on peut déjà acheter des bouquins presque au moitié prix, ou même trois fois moins cher certains.
Oui, ce que tu disais aussi, Loïc, moi je pense que c'est ce qui va aussi sauver la presse, notamment, enfin la presse écrite, c'est que c'est vrai qu'on voit énormément de titres de presse qui s'effondrent, et ce Kindle et les tablettes qui vont arriver, c'est l'avenir de tout ce qui est presse écrite. Je suis pas certain pour certains romans, parce que beaucoup de gens sont attachés quand même au papier, moi je sais que j'aime lire un livre quand même avec du papier, mais pour tout ce qui est notice et bouquins de gare, c'est vrai que c'est carrément l'avenir, quoi.
Je suis pas certain, parce que le problème sur un roman, c'est séquentiel, tu vas lire tes pages les unes après les autres. Sur un journal, c'est un peu plus compliqué, tu passes d'une section à l'autre, tu lis un petit bout ici, un petit bout là. Le Kindle, à mon sens, mais je me trompe peut-être, Loïc, est pas aussi adapté à la lecture d'un journal qu'à la lecture d'un livre.
Il est sincèrement, le DX, qui est le grand format, qui est un format A4 en gros, est parfait. Pour lire le.
D'accord.
Tu ouvres les hebdos, c'est pareil. Hein. Tu as Time dessus, Newsweek, tu ouvres, tu as les photos, les illustrations, les cartoonistes, il y a tout.
Il y a des super liens.
C'est mieux. L'expérience est meilleure qu'en papier.
D'accord.
Parce que ça prend pas de place, c'est tout petit. Tu peux bookmarker, tu peux chercher dedans. Enfin, moi, je suis devenu un fan, je suis accro, je vais nulle part sans mon Kindle. Le défaut, c'est quand tu passes dans les détecteurs. Des aéroports, c'est traité comme un laptop, donc il faut le savoir, ça veut dire qu'il faut sortir deux trucs de son sac, c'est un peu bête.
D'accord, bon bah écoutez, si vous avez été enthousiasmé par cette description, et il est difficile de ne pas l'être, sachez donc, comme on l'a évoqué, que le Kindle sera disponible à l'international d'ici quelques semaines, j'imagine, puisque le nouveau modèle international est sorti, il est déjà, je crois, en vente aux États-Unis. Et l'ancien modèle a baissé de prix et celui-ci sera toujours à $299 si je ne m'abuse. Donc je connais pas le prix en France, mais il devrait pas trop tarder.
C'est le 20 octobre si j'ai bien lu. La différence, c'est que en fait ceux-là ont des puces GSM international, alors que celui que j'ai là en face de moi en ce moment n'a une puce qui est compatible qu'avec les réseaux américains.
Et bien donc le 20 octobre, vous pourrez enfin vous payer ce truc dont on vous parle depuis des mois sur le Rendez-vous Tech. Et envoyez-nous des mails d'ailleurs pour nous dire ce que vous en aurez pensé. Les souris du futur. Futur.
Ah, super ton effet écho.
Waouh.
Chez Microsoft. Vous avez vu cette vidéo, il y a une démonstration des souris tactiles de Microsoft, de différents prototypes. On mettra un lien vers la vidéo dans les notes de l'émission pour que vous puissiez aller les voir vous-même. Pardon, ils ont donc fait des tests qui sont assez surprenants, en fait. Ils ont pris des directions que je n'imaginais pas. Je vais donner la parole à Mathieu, tiens, qui est notre Mac fan résident.
Ah non, mais les labs de chez Microsoft ou les produits hardware de Microsoft sont toujours excellents. J'ai même une souris Microsoft, j'ai toujours eu que des souris Microsoft. Mais,
Ils ont encadré cette partie de l'émission, là.
mais c'est clair que cette vidéo... Bon, allez, quand tu regardes des vidéos du labs de chez, des labs de chez Microsoft, c'est toujours super impressionnant parce que les mecs, ils ont du budget, ils partent dans toutes les directions, ils testent des super trucs. Bon, c'est clair qu'après, ils n'arrivent jamais à en faire des produits finis, mais...
Alors là, justement, tu peux nous dire un petit peu quelle souris t'a intéressé, quelle fonction t'as trouvé amusante?
En fait, toutes, parce que moi, par exemple, depuis maintenant 2 jours, j'ai acheté une Wacom Bamboo Touch. Je ne sais pas si vous avez vu ce produit.
C'est une tablette graphique, ouais.
C'est donc une tablette graphique, sauf qu'il n'y a pas de stylet. C'est à peu près la taille d'un A6. Et vous utilisez, en fait c'est un trackpad d'ordinateur portable mais géant, et vous pouvez utiliser toutes les gesticulations que vous avez sur les trackpads des MacBooks, c'est-à-dire pour déplacer votre souris, pour double-cliquer, pour faire un clic droit, pour tourner votre photo, pour faire défiler des photos. Vous avez plein de mouvements, plein de gesticulations, super pratiques. Ça a changé ma vie. D'une, parce que j'avais souvent mal au bras à force d'avoir la position pas naturelle de la souris, mais c'est quelque chose qui a changé ma vie. En gros, je contrôle mon ordinateur avec l'écran d'un iPhone beaucoup plus grand en faisant toutes mes gesticulations. C'est génial. Et quand je vois ce type de souris, je me dis, mais c'est un compromis entre la souris traditionnelle qu'on connaît et celle qui va réussir à reconnaître 4 doigts en même temps, les différents points de pression, toutes les choses qui sont possibles d'imaginer avec ce qu'on appelle le touch. Donc pour moi c'est des super produits. Après, à voir s'ils vont réussir enfin à nous faire un produit fini avec des pistes comme ça, ce serait génial.
Bon, c'est difficile d'expliquer exactement de quoi il s'agit, mais pour schématiser, effectivement, comme le disait Mathieu, ce sont des souris sur lesquelles on peut également faire des gestures, des
gesticulations, des mouvements.
Ouais. Gesticulation, ça fait un peu étrange.
Oui, ça fait un peu. En gros, c'est ce que tu fais sur ton iPhone, tu pourras le faire sur le bout de ta souris.
Sur la souris, où il y a des modèles, par exemple, où on passe les doigts devant la souris et il va détecter le nombre de doigts qui sont devant, et en fonction des doigts qui apparaissent et qui disparaissent, ça va faire différentes actions, etc., etc. Allez voir la vidéo, ce sont des choses plutôt intéressantes et prometteuses. Et d'ailleurs, il y a une rumeur persistante qui dit que Apple va sortir une souris tactile d'ici peu, et en voyant ces concepts de Microsoft, c'est vrai qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui sont possibles de faire. Photosketch, les images du futur. Là, je vais donner la parole à Jérôme, tiens, du coup, parce que j'ai vu un commentaire que tu m'as envoyé par email qui était très sceptique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et ensuite nous dire ce que tu en penses en tant que designer, toi?
Bah, écoute, moi, ce que j'en ai vu, je vais essayer de résumer un peu le concept, c'est que ça permet de faire des petits crobards. Par exemple, on crobarde un petit chien.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que crobarder? Je suis pas
sûr. Ah, pardon, crobarder, faire un petit dessin. Tu fais un petit dessin de chien, tu fais un petit dessin de bonhomme, et le truc va aller te chercher sur Internet les photos correspondantes au chien, au petit bonhomme, au paysage derrière, te détourer tout ça automatiquement et te composer une image avec ton petit chien, ton bonhomme et le ciel que tu veux.
Donc, c'est-à-dire que je fais 3 croquis idiots, genre là, je voudrais un chien, un type qui saute à la perche et dans un décor d'usine de pot de yaourt. Il va aller chercher tout seul. j'ai un esprit
un peu fantasme bizarre.
J'ai un esprit un peu torturé par. Non, mais il s'est passé un truc dans une usine de pot de yaourt quand j'étais jeune.
D'accord.
Je pas trop écouter.
Vous qui nous écoutez, la drogue, c'est mal.
Et donc, il va aller chercher sur Internet toutes ces images, les détourer, les décoller des images d'origine et les remettre
Et les recomposer
ensemble
dans des espèces de photos où tu auras ton petit chien, ton sauteur à la perche et ton pot de yaourt.
D'accord. Et donc, toi, c'est une vidéo qui est totalement conceptuelle aujourd'hui. Hein. On n'a pas vu le produit fini.
C'est conceptuel. Moi, je suis
enfin,
très
conceptuel, pardon. Excuse-moi, je précise, c'est pas conceptuel. C'est un produit qui est en cours d'élaboration, en recherche, mais il n'est pas disponible pour le grand public. Mais dans la vidéo, c'est censé fonctionner. Hein. C'est une démo fonctionnelle.
Et c'est vrai que quand on voit la vidéo, ça a l'air absolument merveilleux. Donc bon, faut toujours être sceptique avec ce genre de photos parce qu'ils ont quand même bien choisi des photos, on va dire, faciles à détourer. Ça a l'air de tout bien marcher. Moi qui cherche des photos toute la journée sur Internet, je peux vous dire que c'est un tel bazar, les tailles de photos. Et puis t'as jamais un gazon tout à fait vert derrière un chien tout à fait jaune. Ce qui, là, effectivement, est facile à détourer. Et en plus, et c'est surtout pour ça que je suis sceptique, je me demande un peu à quoi ça va servir. Parce que le rendu, même dans la vidéo, où ils ont pris un peu les images qui avaient marché, le rendu n'est pas d'assez bonne qualité pour que les professionnels de l'image y trouvent une utilité, quoi. Ça peut servir, effectivement, pour les fantasmes de Patrick Béja et de ses usines de yaourt. Donc, à l'utilisateur lambda. Mais l'utilisateur lambda, il va demander ça gratuitement. Ça va l'amuser une ou deux fois. Mais je ne vois pas ce qu'ils vont vendre, en fait, avec ce service.
Écoute, je trouve ta question extrêmement malvenue parce que je n'avais pas forcément pensé à l'utilité. Moi, je me disais, waouh, ouais, c'est super cool, ça a l'air super sympa. Je n'avais pas cherché à réfléchir plus loin. Et maintenant, tu es en train de me casser mon trip. Je trouve ça extrêmement malvenu de ta part, Jérôme.
Mais c'est la soirée où on casse les rêves. Déjà, on a cassé le baba au rhum de Loïc en début d'émission. Maintenant, c'est les pots de yaourt de Patrick.
Bon. Mais il y a un moteur de recherche qui existe déjà depuis longtemps qui s'appelle, je ne sais pas comment on prononce, tinyhay.com.
Pardon? C'est l'anglais de Mathieu.
Oui, c'est mon anglais assez approximatif. C'est T-I-N-E-Y.
Tinyhay.
Vous allez dessus, vous envoyez une photo et il va rechercher dans des milliards de photos sur Internet les photos qui ressemblent à celles que vous lui avez envoyées.
Donc tu vois, Jérôme, c'est possible en fait ce truc.
Non, mais ça, c'est facile. Moi, je parle par détourer un élément d'une photo. Ça, quand vous le faites vraiment dans Photoshop. Oui, Photoshop, ça fait 20 ans qu'il travaille sur le procédé pour l'améliorer. Personne n'a trouvé la manière de détourer automatiquement n'importe quel élément d'une photo.
Mais ça peut être pratique si ça te mâche le travail. Imagine que tu dessines, je veux une voiture, je veux un fond comme ça, puis qu'il te prépare ton truc tout automatiquement et t'as plus qu'à y passer un peu du temps pour détourer proprement et faire ton montage correctement.
Ouais.
Ça peut t'enlever une grosse partie du travail qui est la recherche de l'image, qui est la composition, qui est la sélection. Imagine que tu fais,
faire un storyboard, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais, à la limite, un storyboard. Mais encore une fois, ce genre de prototype, de logiciel prototype, ça marche dans le monde des bisounours où les chiens sont bien jaunes sur un fond vert. Mais je peux vous garantir que les images sur Internet, c'est des bouillies de pixels, quoi. Donc, ils en tireront rien.
Après, ça peut être juste un POC, un proof of concept de manière de rechercher des photos avec les formes, de dire voilà, je veux un chien, il va savoir reconnaître qu'est-ce qu'un chien sur une composition. Donc, c'est une technologie, même si l'utilisation, ça fait un peu écarquer les yeux, la technologie qui va être derrière, si ça fonctionne vraiment, ça peut être super impressionnant et ça peut être utilisé dans un système d'exploitation, dans des logiciels professionnels comme personnels, comme des sites internet.
C'est presque de la recherche fondamentale à ce niveau-là. Mmh. C'est juste, on voit ce qu'il est possible de faire. Bon.
Moi, je vais faire mon Yann, ça me semble très gadget.
Ok. Bon, on va passer maintenant à
Twitter.
Ceci. Une seconde. Merde, ça marche pas.
Allez.
La minute, le quart d'heure. Bon, ben, la demi-heure Twitter.
Bon, je pense que ça va vraiment... Ah, tais-toi.
Oh là là, vivement qu'il ait un Mac.
Oui, vraiment. Ça va être...
Oui.
Oula.
Oula,
on a
eu un truc bizarre.
Là.
Sur Mac, ça n'aurait jamais fait ça. Donc Twitter, on a eu, on a une petite minute pour dire que Twitter lance enfin sa traduction. Ils vont, ils sont en train de le traduire dans différentes langues.
Ouais, ça me convenait très bien en japonais. Je comprends pas ce que vous avez. Hein.
Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme système pour faire leur traduction ? Ils ont demandé à leurs utilisateurs de la faire gratuitement pour eux.
Comme scandaleux. Facebook.
Scandaleux, totalement honteux. Loïc, est-ce que tu es d'accord ? C'est un scandale, bien sûr.
Écoute, ce sont des partenaires très proches pour le coup.
Tu vois en fait, tu es ami avec tout le monde, t'as le droit de rien dire.
Non, mais tu sais, quand tu passes ton. Je sais pas, je dois vieillir. Avant, je tapais.
Non, mais pour ceux qui n'auront pas compris, je plaisante avec ça. C'est à mon sens, un moyen assez intelligent de réduire les coûts.
Il faut quand même voir que c'est la récession. Ils n'ont levé, il y a trois semaines, que 100 millions de dollars sur une valorisation ridicule en pleine crise de 1 milliard de dollars pré-monnaie. Et donc, il faut quand même les comprendre. Il faut économiser 20 000 dollars sur la traduction.
Les temps sont durs.
Mais oui. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler, puisque tu m'en donnes l'opportunité, que sismic.com, qui est une très très belle manière de voir Twitter en version web, vous faites juste votre, vous autorisez juste l'appli, vous l'aurez en français. Déjà, immédiatement, tout de suite, là, maintenant, dans la seconde.
Il est déjà en français, rendez-vous compte.
Et oui, et donc, je ne le dis à personne, donc personne ne s'en sort. Non, c'est pas vrai, on a plein de users, je dis ça. On a plein de users. Allez voir, c'est en français,
mais,
c'est bien.
Mais Sismic Desktop n'est pas en français encore.
Non, mais Sismic Web l'est.
D'accord.
Et on a un nombre très fort de Français qui commencent à monter. C'est plusieurs centaines de milliers au total déjà qui s'en servent.
Ah, je suis très très content
des résultats. On l'a en 8 langues. Et donc, on a internationalisé avant Twitter. Excuse-moi de hacker ton sujet.
Non, mais je t'en prie.
En japonais, en chinois, en français, en portugais, en espagnol. Et j'ai dû oublier une langue ou deux. C'est très intéressant. Déjà, la moitié du trafic qui n'est pas en anglais. Donc, les gens, il y a une vraie demande, évidemment, pour les langues, la localisation.
Alors, du coup, puisque tu m'as hacké mon sujet, moi, je t'emboîte le pas et je te pose une autre question. Sismic sur iPhone, c'est pour quand ?
Ben je l'ai là, il est bien. Écoute.
Ah, salut.
Est-ce qu'il y a des invitations ?
Toute la journée.
Alors, j'abandonne mon invitation Wave, je veux Sismic sur l'iPhone.
pour ceux qui n'ont pas compris, excuse-moi, je vais quand même préciser la chose. Sismic est le logiciel de réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook aujourd'hui, développé par la société Sismic de Loïc aux États-Unis. Et que nous utilisons, enfin, je dis nous, moi personnellement je l'utilise, je ne sais pas si les autres
Corben
le font aussi.
Corben l'utilise. Mais...
Voilà.
Oui, ça me fait très plaisir parce que vous savez, il y a pas mal de Français dans Sismic, donc ça nous aide ça nous fait plaisir. C'est pas une boîte française, vous en êtes basé dans la Silicon Valley, mais il y a plein de Français qui bossent chez Sismic. Et quand on voit les amis français qui s'en servent, ça nous fait très plaisir. Mais surtout, c'est bien, on bosse comme des fous, quoi. On n'arrête pas de sortir des releases. On va rajouter Facebook sur le web, là, dans pas longtemps. Les listes, très intéressant. J'en profite parce que...
Les listes sur Twitter ou sur...
Alors, tu l'as pas mis dans le sujet, mais j'en profite pour te donner des petites exclus, même s'il y a eu quelques conversations aux États-Unis dessus. Mais nous, en fait, étant une des deux applis les plus populaires sur Twitter... On a quelques pourcents de tous les posts qui sont envoyés sur Twitter. On a les en avant-première, en fait, pour pouvoir coder dessus les futures fonctionnalités de Twitter. Et donc, il y a deux qui arrivent, c'est le support dans l'API du retweeting, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir qui t'a retweeté. Et on l'aura dans Sismic aussi au moment du lancement. Donc, on est en train de l'intégrer là. C'est vachement bien, ça te montre la viralité. Tu vois, pour ton show, là, Patrick... Il y a eu plein de retweets avant le lancement du show. Eh bien, ça sera présenté comme Facebook, c'est-à-dire que tu vas poster un tweet et en dessous, ça te dira machin et Mathieu et Loïc et on retweeté. Et donc ça, c'est
par contre, tu peux pas éditer ton retweet quand tu le fais comme ça.
Non.
Tu peux pas rajouter un peu d'infos.
Non, ça fonctionne comme les likes de Facebook. C'est tout con. Hein. Les deux se concurrencent tellement.
Et ça me fait un peu penser à Google Wave, non?
J'allais dire la même chose.
Et le deuxième truc qui arrive, qui est super excitant, je sais pas s'il y a eu, je crois qu'il y a rien eu en France là-dessus. Il va falloir que je fasse passer à quelqu'un des captures d'écran parce que moi je les ai activées sur mon compte pour qu'on puisse coder dessus à nouveau.
Les listes, moi je les attends la révélation, oui.
Et c'est vachement bien fait. Donc tu peux rajouter quelqu'un dans une liste, ça bien sûr. Tu peux aussi suivre ce qui est beaucoup mieux. Tu peux suivre les listes des autres. Donc, par exemple, toi, tu vas avoir la liste, je sais pas, podcasteur francophone. Je pense que je pourrais te faire confiance pour me dire que ta liste sera meilleure que la mienne. Eh bien, tu vas et tu peux suivre ta liste à toi, en fait. Donc, c'est très, très bien fait. Et ensuite, à chaque fois que tu vas, par exemple, si je vais sur ta fiche, je vais voir les listes auxquelles les gens t'ont rajouté. Donc, c'est très viral. C'est-à-dire que non seulement ils allaient tes listes à toi, mais moi, si je mets dans la, je te mets dans la liste gros boulet, tu vas voir, et c'est là que ça va poser tout un tas de problèmes. Tu vas voir dans ton profil Twitter que Loïc t'a rajouté dans sa liste gros boulet. Je dis ça, c'est un exemple, bien sûr.
Je sens que les relations vont se dégrader d'ici quelques temps.
Oui, oui, non, mais c'est tout, pas du tout, bien sûr.
Non, évidemment, bien sûr.
Je serai pas là. Mais voilà, en fait, c'est juste pour te dire que ça va poser tout un tas de problèmes, ça va être très viral. Et on va
c'est
les avoir
le truc aussi des listes. Ouais. Oui, c'est effectivement, j'avais pas pensé à cette chose-là. L'un des problèmes de Twitter, c'est que souvent les gens arrivent sur le service et ne savent pas vraiment qui suivre. Donc, ça sera un moyen très simple de récupérer une série de personnes à suivre d'un coup en allant chez quelqu'un à qui on fait confiance et en prenant sa liste.
Voilà, donc par exemple, liste d'entrepreneurs, liste de business angels, peu importe. Et ça, ça va être très, très, ça va être très bien. Et donc, on est en train de l'intégrer là en ce moment. Mais Twitter a pas mal de problèmes avec son API quand même. Ils ont une telle croissance que.
Alors, c'est pour quand tu as un délai à nous donner ou...
Les retweets, nous, on est déjà prêts à lancer, en fait. On attend Twitter.
Vous attendez, oui, d'accord.
Voilà. Et en fait, d'une heure sur deux, ça tombe en panne, en fait. Je pense qu'ils ont des gros problèmes de montée en charge.
D'accord.
Et du coup, ils nous ont annoncé le lancement pour il y a 15 jours, mais on est déjà plus 15 jours. Je pense que sincèrement, pour les listes, ça ne sera pas avant un mois, parce qu'on voit qu'ils ont des problèmes, l'API n'arrête pas de tomber. Mais ça va être très très bien, et on aura tout ça sur Sismic.
D'accord. En tout cas, si vous voulez profiter de ces nouvelles fonctions rapidement, encore une fois... Sismic Desktop et Sismic Web, ils ont le sceau Patrick, en tout cas, puisque comme vous pouvez le voir, sur la caméra, c'est celui que j'utilise.
Il y a, je t'en remercie, ça me fait très très plaisir.
Je ne dis pas de conneries.
Et il y a une question donc, sur Android, on est en train de préparer Android et BlackBerry aussi pour la fin de l'année, donc on va avoir... Ah. On va avoir 5 produits, ce qui mine de rien pour une petite équipe comme la nôtre, et pas, c'est tout pas en natif.
Et pour revenir au sujet d'origine de la traduction, à la limite, on s'en fout. Voilà, Twitter fait traduire Twitter par les internautes. C'est du crowdsourcing et
Facebook avait fait pareil et puis ils avaient réussi à boucler des traductions en moins de 3 semaines, alors que faire ça par une boîte, ça prend beaucoup plus de temps. C'est génial, c'est internet, c'est collaboratif. On y va.
vive le collaboratif et internet. Et maintenant, on passe à.
La séquence des rumeurs à la limite.
Ça a pas marché. Je vais tenter de le refaire. On va voir si ça va mieux marcher.
Tu peux y arriver, Patrick.
Non, mais je crois pas.
Oublie le pot de yaourt.
Elle est en train de rendre l'âme. Attends.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Ouais, ça a marché, ok. Alors, les rumeurs, en fait, c'est pas tellement des rumeurs, c'est juste des petites histoires qu'on va évoquer très rapidement. La première, adieu GeoCities, le service de blog, en fait, d'il y a une bonne dizaine d'années, qui était censé conquérir le monde, ferme ses portes. GeoCities, ça, je pense que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas vraiment connaître. C'est un truc pour les vieux comme nous, mais... Vous aviez une page GeoCities, vous ?
Non, mais j'en ai fait des cauchemars.
Non, vous voyez ces vieilles pages.
Non, ok. Bon, moi non plus en fait. Donc, c'est juste. Mais c'était le truc à la mode pendant un moment. Antivirus Microsoft qui est sorti il y a quelques temps aussi. Microsoft propose un. C'était Mathieu qui a fait un gros.
Non, moi non.
Antivirus Microsoft. Donc, Microsoft propose un antivirus gratuit.
Essentiel.
Qui est important pour tout utilisateur de PC, et qui fonctionne pas mal, et qui risque de poser des problèmes à tous les éditeurs d'antivirus de la Terre. Au départ, ils disaient non, mais il n'est pas possible que Microsoft sorte son antivirus, c'est de la concurrence déloyale, etc. Finalement, comme ça a fini par passer, ils se sont résolus à dire on a la qualité qu'on paye, et comme celui de Microsoft est gratuit, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et en plus, ils ont dû lancer une ou deux remarques acides sur la qualité habituelle des produits Microsoft. Personnellement, j'ai pas encore testé l'antivirus Microsoft, mais je peux vous garantir que s'il est ne serait-ce que correct, je vais abandonner le casse-tête qu'est le téléchargement de l'antivirus à chaque nouvelle installation, etc., pour utiliser le Microsoft. Et Mathieu, c'est pas la peine de dire qu'on n'en a pas besoin sur Mac. On t'écoutera.
Non, non, mais ils ont fait une belle progression par rapport aux premiers qui sont sortis, qui s'appelle OneCare, qui était une vraie poubelle. C'est vrai que ça peut, il est sympa. Il est sympa, il est essentiel. Et puis, comparé aux autres usines à gaz, on va pas parler de Norton ni de Kaspersky, tu l'installes. Il, comme son nom l'indique, c'est Microsoft Essential. Donc, il se cantonne à ce qu'il est censé faire, les virus. Et visiblement, il a l'air de le faire plutôt bien, qu'ils ont réécrit une grosse partie du moteur à l'intérieur. C'est sûr que je préférais que Microsoft dépense de l'argent à sécuriser son système plutôt qu'à essayer de fourguer de logiciels avec.
Mais on c'est bas, ça.
Mais on peut au moins dire que c'est un truc que t'installes un PC de quelqu'un ou en entreprise, tu installes un PC de quelqu'un, tu te poses plus la question de dire je vais lui mettre Avast, mais il va y avoir de la pub après ou je vais mettre une version gratuite. Tu lui fous le Microsoft Essential, ça fait bien ce qu'il a à faire. C'est une bonne avancée. Ouais.
Moi j'ajouterais juste un truc, je trouve ça quand même très bien. Alors je suis désolé pour les éditeurs d'antivirus, que ça soit les éditeurs d'OS qui fassent leur propre antivirus, parce qu'au moins je sais que celui qui fait un OS, il va avoir envie de le protéger, alors que j'ai toujours eu ce rapport de méfiance avec les éditeurs d'antivirus. Ouais. Parce que bon, faut pas être parano, mais quand tu vends un antidote, t'as facilement envie de créer le poison, quoi.
La théorie du complot de
voilà, la théorie du complot, je me suis toujours méfié des éditeurs d'antivirus. Il me semblait toujours que leur patch de virus sortait un ou deux jours après le virus. Enfin, voilà.
C'est ce qui est surprenant. Ils auraient dû le sortir un ou deux jours avant, si les choses...
Oui, avant, pardon.
C'est comme quand t'installes Norton et puis que Norton, il t'affiche des messages. Tout le temps, Norton a réussi à bloquer depuis 2 heures 40 000 attaques sur votre ordinateur. Ouais.
Bon, d'accord. Je ne ferai pas de commentaires et je me désolidarise totalement de ce que dit Jérôme. Si les gens de Norton nous écoutent et veulent sponsoriser le rendez-vous tech, nous sommes totalement ouverts à vos propositions. On va passer les 2-3 histoires suivantes pour aller directement vers 2 trucs qui ont été rajoutés, je crois, par Jérôme. Une histoire qui m'intrigue. Une femme a été arrêtée pour avoir poké quelqu'un sur Facebook.
C'est moi.
Il y a une dame qui, suite à un jugement, on lui avait dit de ne plus... c'est comme ça arrive souvent, vous n'avez pas le droit de vous approcher de telle personne à 40 mètres, 50 mètres, 2 kilomètres. Vous n'avez plus le droit d'essayer de prendre contact avec lui. Et c'est ce qui s'est arrivé pour cette dame qui n'avait plus le droit de contacter une autre personne, qu'elle a simplement poké sur Facebook. Et donc, elle a été arrêtée avec un jugement et je crois qu'elle doit payer je ne sais plus combien. 2 500 $. Elle risque jusqu'à 11 mois et 29 jours de prison. Enfin, voilà.
Pas mal.
Poker les gens sur Facebook, en fait, faut faire super gaffe.
Si vous faites un reply sur Twitter, si vous aimez un post sur Facebook, faites attention, ça peut être dangereux. Et un autre truc, alors ça m'intrigue beaucoup, c'est Photoshop sur iPhone.
C'est disponible, mais dans l'App Store pour le moment, visiblement américain, pas encore français. Mais c'est juste des filtres. Donc c'est une application officielle, donc
Mais qui s'appelle Photoshop.
Voilà, oui, c'est photoshop.com, donc le service de Adobe. Ils ont fait une application iPhone qui te permet d'ouvrir et d'avoir des filtres tout préparés par Photoshop, etc. Visiblement avec un service de synchronisation et de partage directement sur photoshop.com. C'est bien. Adobe fait rentrer Photoshop, fait rentrer le Flash dans l'iPhone, c'est bien, on va y arriver.
Je testerai parce que j'utilise en ce moment une application qui s'appelle Best Cam, qui part du principe que the best camera is the one you have on you, you have with you, qui veut dire donc la meilleure caméra, le meilleur appareil photo est celui que vous avez sur vous, et qui donne des moyens d'améliorer les photos que vous prenez avec votre iPhone en appliquant des filtres et ce genre de choses. Le résultat est parfois assez saisissant. J'ai pris des photos au Père Lachaise il y a une ou deux semaines qui étaient relativement de qualité moyenne, on va dire, prises avec l'iPhone. Je les ai manipulées un petit peu avec ce logiciel et avec cette application. Le résultat est assez saisissant. Vous pouvez aller voir sur ma page Flickr si vous voulez voir le résultat. Il y a des trucs assez beaux. L'application s'appelle Best Cam. Bon, écoutez, on va passer à notre conclusion maintenant. Il n'est pas trop tôt. Et on va... Non, c'est pas que je m'embête, mais... Il se fait tard. Et on a un nouveau segment qui, j'espère, sera régulier. C'est le segment de Guillaume qui nous envoie la statosphère. Guillaume est un jeune homme qui s'intéresse beaucoup aux statistiques du monde entier et du net en particulier, qui a un site qui s'appelle statosphère.fr et qui nous envoie ce petit segment qui dure à peu près une minute. Donc les gars, si vous voulez aller boire un coup ou faire quelque chose, vous avez une minute. Et c'est parti, normalement. Maintenant, dans deux secondes.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une série de statistiques dédiées au tentaculaire réseau social, j'ai nommé Facebook. Vous savez peut-être que Facebook compte désormais plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. Mais savez-vous que si Facebook était une nation, elle serait la quatrième plus peuplée du monde ? Et que si tous les utilisateurs de Facebook donnaient 10 centimes d'euros à Wikipédia, alors cela financerait l'encyclopédie pendant 7 ans ? Aujourd'hui, Facebook, c'est 5 vidéos importées chaque seconde. 2 fois plus que sur YouTube, 30 fois plus que sur Dailymotion. C'est aussi 800 photos importées chaque seconde, 10 fois plus que sur Flickr, 500 statuts envoyés par seconde, 2 fois plus que sur Twitter. Enfin, chaque jour, on passe en moyenne 20 minutes sur Facebook. Mais savez-vous que pour la communauté tout entière, cela représente au total plus de 11 000 ans par jour ? Toutes ces statistiques ont de quoi donner le tournis, vous ne trouvez pas ? C'est pourquoi je vous propose de retrouver tous ces chiffres et toutes les statistiques du web sur statosphère.fr. À bientôt.
Voilà, merci Guillaume. Effectivement, 11 000 ans par jour, c'est un petit peu effrayant. Mais moi, je me suis arrêté quand même à l'une des premières statistiques où il dit 10 centimes par personne, ça permet de financer Wikipédia. Je me demande ce que ça permettrait de faire avec le rendez-vous tech. 10 centimes par personne, c'est pas grand-chose. Je pense que ça pourrait financer le rendez-vous tech pendant bien 4-5 mois. Quelque chose comme ça.
C'est vrai qu'il faut arrêter les fêtes au champagne.
Oui, c'est vrai. C'est la récession, hein, comme le disait Loïc tout à l'heure. Dernière chose, on va faire un site fantastique, là encore proposé par Mathieu. Je ne sais pas d'où tu les sors, mais tu en as toujours des plus intéressants les uns que les autres. Est-ce que je peux te demander de nous parler de mini-face ?
Alors oui, c'est une mini-face, comme vous voulez. C'est le chiffre 1, suivi de miniface.com. C'est un truc délirant. Alors, je vais poster le lien dans la chatroom avant qu'il demande. Voilà. Donc, en fait, c'est un site commercial. Mais c'est un truc génial. Super écho. Tout fonctionne bien. Vous m'entendez ?
C'est bon. Tu es revenu.
Oui, je sais pas. En fait, tu envoies ta photo, c'est-à-dire ton visage de face. Et en fait, tu peux choisir un corps, un vêtement, etc. Et ça te fabrique une poupée ultra réaliste de toi.
Oui, une petite statuette, quoi.
C'est à la taille à peu près d'un pot de yaourt, mais
C'est
pour ça que ça te perturbe. Et en fait, tu peux faire des statuettes, mais t'en as plein. Par exemple, tu as des trucs sport, fun, mariage, job, kids, et puis ça te crée une mini statuette ultra réaliste avec la barbe, avec tout, avec les si t'as des lunettes ou. Et c'est super impressionnant. Faut aller le voir. Rien qu'en allant sur la homepage du site, on voit tout de suite. On se dit ah ouais, c'est le mec, il envoie sa photo et puis ça rend de cette qualité. Donc en gros, tu peux avoir des statuettes. Bon, il n'y a pas encore les accessoires, c'est-à-dire tu peux pas avoir Patrick Béja va faire ses courses ou Patrick Béja va à la mer, mais à mon avis, ça va arriver.
Ça devrait pas tarder. Ok, donc uneminiface.com, on aura le lien dans les notes de l'émission également. Conseil logiciel, tu disais Mathieu qu'il y a Unlock sous Mac aussi.
Ah oui, j'ai écouté avant-hier le dernier, celui-là qui est disponible actuellement, épisode avec Yann et Jeff, qui était un épisode épique. C'était du troll en folie, j'ai adoré. Et puis à la fin justement, il y a Yann qui disait que sous Windows, tu pouvais être bloqué des fois quand tu supprimes des fichiers. Windows te dit j'ai encore cet écho. Fichier.
Oui, c'est un petit peu étrange. Je sais pas
en plus, ça fait chier. Et qui disait voilà, Windows te dit ce fichier est actuellement utilisé, vous pouvez pas le supprimer. Et puis dans 8 cas sur 10, Unlock te le débloque ou alors tu réinstalles Windows dans les 20% qui restent. Et en fait, sous Mac, ça arrive aussi. Mais sous Mac, c'est un peu plus pratique, c'est-à-dire que quand un fichier est verrouillé et que tu peux pas le supprimer, il suffit de faire un clic droit dessus, de lire les informations, et tu as une petite case qui est cochée, qui est verrouillée. Il suffit de la décocher et tu peux supprimer ton fichier.
Je me doutais bien que ça... Je pensais que... Je pouvais pas imaginer que ça serait uniquement un commentaire pour dire « Oui, il y a un logiciel sous Mac aussi. »
Non, non, c'est intégré au système.
Il devait y avoir, voilà. Exactement.
Mais c'est un truc qui arrive souvent. Tu mets quelque chose à la poubelle, il est verrouillé, puis la poubelle peut pas se vider. D'accord. C'est un truc qui m'arrive une fois par semaine au moins.
Ah oui. Bon, d'accord. Bon, on peut se retrouver au milieu de l'argument, de la dispute pour se dire ils sont verrouillés sur Mac et PC.
Voilà.
dernier petit commentaire que je voulais faire, un petit message pour passer un message par rapport à une BD qui vient de sortir il y a deux semaines, je crois. C'est le quatrième tome de la BD Les Geeks, qui est très aptement nommé Hacker Vaillant, Rien d'Impossible. Hacker avec H-A-C-K-E-R, hein, un hacker. C'est marrant, non? Non?
Bon. Ah, très bon.
En tout cas... En tout cas, la BD est excellente, ce sont des amis, et si vous vous intéressez à notre émission, il y a des chances que les blagues de cette BD vous plaisent aussi, donc je vous recommande d'aller au moins y jeter un coup d'œil à la FNAC et dans toutes les bonnes crèmeries. Les Geeks tome 4 est disponible et ça vaut le coup, donc on voulait leur filer un petit coup de main, ils le méritent bien. Autre commentaire, sur iTunes. Vous pouvez aller laisser des commentaires sur l'émission, positifs ou pas, mais généralement ils sont positifs, donc je pense que vous aimez l'émission. C'est bien gentil de votre part. Nous en sommes à, je crois, 224, quelque chose comme ça, 224 commentaires. Je vais vous en lire un seul aujourd'hui qui prouve l'honnêteté et la véracité de tous ces commentaires. Et c'est Hel Xion S qui dit... Patrick Béja me paye pour vous dire que son podcast est une mine d'informations pour quiconque s'intéresse de près ou de loin aux nouvelles technologies. Les sujets sont abordés en profondeur, à recommander. C'est bon, Patrick, ça te convient ? Voilà. Oui, merci, ça me convient très très bien. Évidemment, je n'ai pas rémunéré Monsieur Elxion, il l'a fait de lui-même. Je ne sais pas s'il cherchait à pêcher une invite Google Wave par ce moyen.
Mais c'est réussi.
Moi aussi, tu fais du crowdsourcing en fait.
Pardon ?
Toi aussi, tu fais du crowdsourcing pour ton podcast.
Donc voilà, comme vous le savez, l'App Store, le iTunes Store l'iTunes Store est un moyen de trouver des podcasts assez facilement. Et quand vous faites des commentaires, ça nous aide à remonter un petit peu dans les classements. Donc, nous vous en remercions. Et si vous avez une ou deux minutes à perdre et que vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à vous balader sur l'iTunes Store et à aller commenter sur le Rendez-vous Tech. Bah écoutez, on s'approche de la fin de l'émission. Comme promis, je vais vous donner quelques petits instants pour parler de ce que vous faites sur le web. Et je redonne la parole à Loïc qui a été bien silencieux ces dernières minutes. Est-ce que tu étais en train de rêver à ton baba au rhum perdu ?
Non, non, j'étais en train de tweeter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de...
On a entendu les petits sons de Sismic Desktop. Je crois qu'ils venaient de chez toi, en fait.
Oui, hein, ça fait des lignes tout le temps. Et encore, j'étais sur mute.
Alors, où les gens peuvent te retrouver sur le web ? Qu'est-ce que tu fais de beau ?
Ils peuvent me retrouver sur facebook.com/loïc ou twitter.com/loïc. Et ensuite, plus que sur mon blog que j'ai un peu déserté. Et ensuite, je prépare le web. Donc, on va recevoir 2000 personnes, 35 pays, leweb.net.
Alors, tu nous expliquais ce que c'était que le web à l'origine tout à l'heure, ouais. Mais peut-être que tu peux nous dire plus précisément pour les gens qui sont curieux, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui et puis qui y va, qui y participe.
C'est le rassemblement le plus international dans le monde, j'ai pas peur de le dire, parce que les Américains ont des conférences équivalentes, mais qui sont quasi 90-100% américains, d'entrepreneurs, de business angels, de d'investisseurs. Et aussi de quelques marques, mais pas trop, parce qu'en général, ils sont un peu chiants. On prend que les cools. Qui se retrouvent à Paris. Et on a toutes les stars du web américain et européen qui sont là, comme Chad Hurley, le fondateur de YouTube, comme Jack Dorsey, le créateur, l'inventeur de Twitter, des gens de Facebook, de MySpace, de Yahoo. Donc, tous les acteurs sont là. Des présentations très originales comme Violet Blue qui va parler de l'avenir du sexe Elle a écrit un livre sur le sexe open source. Je suis sûr que ça ne manquera pas de vous intéresser. Elle fait un carton aux États-Unis. Et on va avoir Tony Hsieh qui a vendu Zappos $1 milliard à Amazon. Voilà, donc en fait, si veux, l'intérêt, c'est de venir s'inspirer. Benjamin Bechbaum a eu l'idée de Dailymotion il y a 5 ans au web. iRepublic a levé plusieurs millions d'euros l'an dernier au web. Donc en fait, ce que j'essaie de faire avec le web, c'est tout simplement de rassembler l'écosystème Internet mondial, parce qu'il faut être ambitieux, à Paris pendant 2 jours, les 9 et 10 décembre, le web.net, et on y arrive pas mal, et ça sert à tout le monde, ça sert aux startups à s'inspirer, trouver des idées, trouver des fonds, ça sert aux investisseurs à trouver des startups dans lesquelles investir, à la presse à écrire des papiers, on va avoir 300 ou 400 blogueurs cette année encore, on va avoir.
Voilà. Je sais pas ce qui se passe avec Skype ce soir, mais il est un petit peu.
Voilà.
Il y en a un de nous qui est sous Windows là.
Et c'est pas bon. Et voilà, donc cette année on est tarif étudiant parce que c'est le web. Je sais, en général les gens disent que c'est cher, mais il faut voir que ça coûte plus $1 million à organiser.
Alors ça veut dire que les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils veulent aller assister à des conférences, c'est possible ou c'est vraiment...
Ça coûte 1000 euros et ça coûte plus $1 million à organiser. Évidemment, tout le monde ne paie pas. Donc on a beaucoup d'accréditations blogueurs qu'on ne va pas tarder à annoncer. Pardon. Donc alors normalement pour les blogueurs,
non, je plaisante, j'aurais a priori pas attendu.
Et quand on suit le web, on sait qu'on s'est inscrit, on a reçu 200 ou 300 candidatures déjà, on va en prendre, je sais pas, 50 ou 100. Et pour les autres qui sont retardataires, ben ils m'envoient un mail et je vois ce que je peux faire.
Non, mais je crois que j'aurai pas le temps d'y aller de toute façon.
C'est vrai, ben t'as bien tort.
On verra, remarque, mais.
Et puis voilà, donc le web.net. D'accord. Et puis ça nous fait plaisir si vous venez.
Ça marche.
Beaucoup.
Mais en tout cas, on en.
C'est un business qui est pas. Les gens disent souvent. Ah là là, il doit s'en mettre plein les poches avec ça. Et sincèrement, pas du tout. On équilibre à peine. La salle seulement coûte 200 000 euros. Et c'est un business dur, en fait. Je suis un peu down ce soir. Là. Ça va être top. Hein.
Oh. Mais non, ça va être vachement bien.
Tout le monde gueule parce que c'est cher. Et toi, de l'autre côté, t'arrives juste à équilibrer. Mais voilà, ça va être une très, très belle fête cette année encore.
En tout cas, on en touchera deux mots dans l'émission. Est-ce que Jeff vient à Paris, tu sais, pour le web, je crois, non ? Jeff Clavier.
Oui, bien sûr. Il est oui, Jeff. Il a pas raté un seul web. Il y en a eu 6.
Tout à fait.
Et il sera là. Il va animer le panel sur les applications iPhone.
Ah, magnifique. Bon bah écoute, il pourra nous faire un compte rendu presque en direct alors.
Absolument. Super. Les dates 9 et 10 décembre, leweb.net, et vous avez des vidéos. Vous pouvez voir ce que c'est. Je vous y attends. Le Jeff Clavier, il est là.
Ah, il est là.
Salut Jeff.
Évidemment, il est dans la chatroom pour ceux qui nous écoutent.
Dans le chatroom, voilà, puisque c'est lui qui nous a présenté Patrick d'ailleurs.
Ok, Jérôme, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, ce qu'on fait nous, parce qu'on est plusieurs, on essaye très modestement pour s'amuser, faire des podcasts vidéo. Donc pour l'instant, on en a deux en route et on en a d'autres en projet. Le premier, c'est Zapcast.tv, donc c'est un podcast sur les podcasts. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de monde était un peu paumé devant le monde merveilleux des podcasts, parce que y a un peu à boire et à manger. Donc avec Christophe, on essaie de vous présenter, nous, les podcasts qu'on aime. Et allez voir le numéro 5, on parle de quelqu'un que vous connaissez bien, là, la chatroom.
Peu importe, passe.
Et le numéro 4 aussi, on parle aussi d'une personne que vous connaissez
non,
bien.
Non, passons, c'est pas grave.
Donc en gros, voilà, les numéros 4 et 5 étaient sur Mathieu et moi. Donc,
voilà. Sinon, on présente Scud.tv, cette fois c'est avec Philippe et Arnaud. C'est un magazine de débat autour de la culture geek, même si on n'est pas fan du mot geek. Mais voilà. On débat dans la joie et la bonne humeur et le rhum et les clopes sur des sujets aussi variés que les films de science-fiction, est-ce que c'est le retour ? Ou dans le prochain Scud que vous découvrirez bientôt, on a eu un débat sur Google. Who watches Google ?
Mon Dieu.
Voilà,
ça donc promet.
Vous pouvez retrouver ça sur zapcast.tv ou scuds.tv ou sur l'iTunes Store ou en RSS direct si vous êtes allergique à l'iTunes Store.
Et sur Twitter, on te retrouve sous le nom Jérôme Kainborg.
Je suis pas le seul à avoir choisi un pseudo comme
ouais.
ça.
Ouais, c'est je vais vrai. Peut-être changer bientôt, mais pour l'instant, c'est Jérôme Kainborg, K-E-N-B-O-R-G.
Bon, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Mathieu, toi, bon, on ne te présente plus, mais vas-y quand même. Rapidos.
Eh bien, vous pouvez me retrouver. Le mieux, c'est d'aller sur mon blog, mathieublanco.fr, et puis vous aurez tous les liens vers Wheel of Mac JT. Donc, chaque semaine, l'actu tech et Apple, les Wheel of Mac screencasts, les screencasts d'utilisation macOS, le podcast à demimot.fr, donc lecture littéraire pour ceux qui n'ont plus le temps de lire ou ceux qui ne peuvent plus aussi.
Faut pas immense le... succès d'ailleurs, n'est-ce pas ?
J'ai cru comprendre, oui. Ça marche plutôt bien. Et effectivement, quand par la suite, quand on m'a fait écouter des achats, des livres audio achetés, c'est vrai que on est allé un peu plus loin avec l'auteur du livre que les livres que tu peux acheter à 10 ou 20 euros sur l'iTunes Store. Donc on est très surpris. Puis ça fonctionne très bien. Et cette semaine, le podcast indépendant de l'actualité financière et immobilière.
Bon, ça suffit, Mathieu. Tu nous le promets depuis des mois.
Non,
celui-là.
En fait, il est enregistré. Il arrive peut-être demain soir, peut-être après-demain soir, mais il est là. Je l'ai écouté, je l'ai mixé, il est là.
Ok, donc Financimo sera là aussi. Et donc c'est twitter.com/MathieuBlanco.
Ils vont sur le site, sur mon blog, ils ont le petit logo de Twitter.
Voilà. Et donc le blog, c'est MathieuBlanco.com. .fr, d'accord. Très bien, et ça sera aussi dans les notes de l'émission. Et enfin, pour suivre l'émission, commenter sur le blog, vous pouvez aller donc sur lrdv.fr, c'est le rendez-vous. Ça fait LRDV. Sinon, directement sur le blog principal où j'ai toutes mes émissions qui s'appelle frenchspin.com. Vous pouvez envoyer un email à tech@frenchspin.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter à l'adresse twitter.com/notepatrick. Et la prochaine émission sera le 26 octobre, lundi 26 octobre, toujours à 10h du soir, heure de Paris. Sur Ustream en direct, vous pouvez nous y rejoindre et participer à la folie avec la chatroom qui est là. On vous dit donc bonne fin de soirée, passez de bonnes semaines et on vous retrouve à ce moment-là. Merci à tous, merci à vous trois d'avoir participé et à très bientôt.
Merci à toi.
Merci de la chatroom.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.